Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Puisse le Seigneur nous accorder son illumination pour qu'on puisse avancer avec la lumière qui fait jaillir sur notre chemin. C'est ma prière. En Christ, nous avons une espérance. En lui, qui a été donné de Dieu, nous pouvons trouver un soutien dans les souffrances. Nous pouvons trouver la lumière dans les ténèbres. Mais quelle pourrait bien être notre existence si nous ne cherchions pas et si nous ne cherchons pas cette lumière dans nos ténèbres? J'aimerais aujourd'hui que vraiment on tende très attentivement l'oreille, moi compris, à ce que le Seigneur cherche à nous communiquer à travers sa parole. Que l'on prenne du temps, pendant qu'il nous reste du temps, sur le sablier du temps de la grâce. Frères et sœurs, je vous pose la question. Je ne pense pas être le seul. Traversez-vous des épreuves qui semble remettre toute votre existence en question? Jésus-Christ a-t-il traversé des épreuves qui remettaient sa foi en question et qui mettaient sa foi à l'épreuve? À chaque instant de sa marche, nous lisons, du berceau jusqu'à la croix, c'était l'expérience de Jésus. Et l'aspect que j'aimerais qu'on médite aujourd'hui tout particulièrement, c'est une chose à laquelle on ne manquera pas de nous retrouver confrontés sur cette terre, et c'est le fait qu'il existe pas plus de deux catégories d'individus sur la terre. Et ces deux catégories d'individus, elles sont parfaitement illustrées et nous sont parfaitement présentées dans l'exemple de Caïn et d'Abel. Retournons-y maintenant et trouvons le message que Dieu a renfermé dans ses paroles pour nous aujourd'hui. C'est ce que l'on veut faire. Genèse chapitre 4, où nous lisions. Cette fois-ci, on va commencer du verset 1 et partir de là. Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, et dans le texte original, au bout de quelque temps, c'est en fait à la fin des jours. Donc, à la fin des jours, le septième jour, le jour du sabbat de l'Éternel, au bout de quelque temps, à la fin de ces sept jours, Caïn, il vint adorer. Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn, ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel eut égard à Abel et à l'oblation qu'il offrit. Mais il n'eut point égard à Caïn, ni à son oblation qu'il présenta à l'Éternel. Qu'est-ce qui est renfermé ici? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi l'Éternel n'eut point égard à l'oblation de Caïn? Vous avez ici deux personnes qui adorent le Seigneur. Deux personnes qui se présentent devant la face de Dieu et qui viennent apporter des offrandes à Dieu. Seulement, il y a quelque chose qui distingue ces deux personnages, Caïn et Abel. Et c'est ce que nous voulons voir. Qu'est-ce qui les distingue? Parce que ce sont deux personnes qui adorent le Seigneur Dieu au septième jour, au sabbat. Ce sont deux personnes qui gardent le sabbat. Mais il y a une distinction très particulière qui place une ligne de démarcation entre ces deux individus qui se présentent devant la face de l'Éternel pour rendre un service à Dieu. Nous voulons savoir qu'est-ce qui distingue, où je me situe en rapport avec cette illustration que Dieu a placée devant nos yeux dans sa parole. Sans plus tarder, on veut pour cela aller dans la citation de Patriarches et Prophètes. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui dans ce chapitre de Patriarches et Prophètes parce que c'est vraiment profond ce qui est contenu là-dedans. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 49, paragraphe 1, jusqu'à la page 50, paragraphe 1, où l'esprit de prophétie nous dit ceci. Les fils d'Adam, Caïn et Abel, étaient très différents de caractère. Abel était mu d'un esprit de fidélité à Dieu. Il s'était rendu compte que les voies de Dieu envers l'homme pécheur sont empreintes de justice et de miséricorde, et il acceptait avec reconnaissance l'espérance de la rédemption. Caïn, en revanche, nourrissait des sentiments rebelles. Il murmurait de ce que Dieu, en raison du péché d'Adam, avait prononcé une malédiction sur la terre et sur la race humaine. Il s'abandonnait aux pensées mêmes qui avaient amené la perte de Satan, à l'ambition et au doute à l'égard de la justice et de l'autorité divine. Comme Adam, ses deux frères furent mis à l'épreuve pour déterminer s'ils croiraient et s'ils obéiraient à la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait parlé à Adam, il avait parlé à Ève, il leur avait transmis cette promesse de celui qui viendrait écraser Satan sous son talon et qui serait blessé au talon par Satan. Dieu avait donné cette promesse dans Genèse chapitre 3 verset 15 de qu'il mettrait une inimitié entre la femme, entre Ève et sa postérité, les enfants de la race humaine, entre elle et Satan. Et le mal et le péché et les enfants de Satan, ceux qui suivent ses voies. Et Caïn et Abel, ils ont été mis à l'épreuve pour voir, de la même manière que Adam et Ève, s'ils croiraient et obéiraient à la parole de Dieu. Je continue. Ils connaissaient les conditions du salut et comprenaient le système divinement institué des sacrifices. Donc nous lisons que les deux, Caïn et Abel, comprenaient cela. Ils connaissaient les conditions du salut et ils comprenaient le système que Dieu avait institué dans les sacrifices d'animaux. Ils savaient qu'en se conformant à ce rite, à ces sacrifices, ils exprimaient leur foi en un sauveur à venir, symbolisé par ces offrandes. Et il reconnaissait qu'il dépendait entièrement de lui pour leur pardon. Il savait qu'en se conformant ainsi au plan divinement établi pour leur rédemption, il donnait la preuve de leur obéissance à la volonté de Dieu. J'attire votre attention sur un point, c'est que ici le « ils savent », c'est le pluriel. Caïn et Abel savaient cela. Ils savaient qu'ils devaient dépendre entièrement de Christ pour leur pardon, de ce sauveur à venir que ces offrandes symbolisaient. Ils savaient, ils connaissaient tout cela, les conditions du salut. Je continue. Sans effusion de sang, il ne pouvait y avoir de rémission des péchés. Et en sacrifiant les premiers-nés de leur troupeau, ils montraient leur foi au sang de Christ comme l'expiation promise. Enfin, ils n'ignoraient pas qu'en signe d'action de grâce, ils devaient présenter à Dieu les premiers fruits de la terre. C'est très intéressant, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez un peu ce qui nous est présenté ici? À la fin de ce paragraphe, il disait, il ne devait pas ignorer qu'en signe d'action de grâce, il devait présenter aussi à Dieu les premiers fruits de la terre. Mais c'était un fruit, c'était en signe d'action de grâce. C'était en plus qu'il devait présenter les fruits de la terre. Mais le fondement de l'approbation divine envers eux, c'était de se conformer à ce rite, au plan divinement établi pour leur rédemption, en offrant les premiers-nés de leur troupeau. Et offrir les premiers fruits de la terre, ce n'était que pour exprimer leur gratitude. Ce n'était pas le fondement de la manière dont ils seraient acceptés devant l'Éternel. Cela constituait une chose par-dessus. Je continue. Vous allez voir comment tout cela est tout relié. C'est pour ça que je vais lire en long et en large ces passages de l'esprit de prophétie, du témoignage de Jésus pour entendre comment Dieu a qualifié ces événements qui nous sont placés comme une illustration pour nous aider à distinguer quel caractère j'ai. Quel caractère je nourris, comment est-ce que je réagis à Dieu face au plan du salut? Je répète, je pose la question, comment est-ce que nous réagissons, nous nous comportons envers Dieu en rapport avec son plan du salut qu'il a lui-même établi? Qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous comme Abel ou sommes-nous comme Caïn? Je continue. les deux frères préparèrent deux autels semblables et y apportèrent leurs offrandes. Celle d'Abel, conformément à l'ordre divin, consistait en un agneau de son troupeau. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Le feu descendit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu égard à Abel? C'est écrit ici. Le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice. De la même manière que quand Élie, il était sur la montagne de Carmel, il avait présenté ce test, cette mise à l'épreuve de l'authenticité du culte de Baal, et seul celui dont l'offrande serait consumée par le feu venant du ciel pourrait être qualifié d'un culte qui était accepté de Dieu. Ici, Dieu a eu égard à l'oblation d'Abel parce que le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice. Mais Caïn, en dépit des instructions reçues, nettes et précises, déposa sur son autel non pas un agneau, mais des produits de son verger. Ils sont venus le sabbat où ils étaient censés rendre un culte à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Abel, conformément à l'ordre divin, il présente un agneau de son troupeau et il témoigne ainsi du fait qu'il reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur et qu'il n'a pas de mérite en lui-même et donc il apporte l'offrande qui représente l'agneau de Dieu dont les mérites seuls peuvent le rendre Abel acceptable à Dieu. Voilà ce que Abel il faisait, il apportait Jésus, il confessait ses péchés sur la victime expiatoire en harmonie conformément à l'ordre établi dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Caïn y fait? En dépit des instructions reçues nettes et précises, il dépose sur son autel non pas un agneau, mais des produits de son verger. Donc Caïn, il venait simplement rendre une action de grâce sans le fondement qui rendrait son culte acceptable à Dieu. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un problème. C'est que beaucoup de personnes, en voulant rendre un culte à Dieu, viennent avec leurs premiers fruits de la terre, ils viennent rendre des grâces, rendre grâce à Dieu, exprimer leur remerciement à Dieu, exprimer leur louange à Dieu. Mais ils ont raté la première étape. Et la première étape, elle n'est plus jamais là, elle ne fait pas partie de leur vie religieuse, elle ne fait pas partie de leur culte. Tout ce qu'ils font, c'est rendre des actions de grâce sans venir confesser leur terrible indignité et leur besoin du Rédempteur qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez le parallèle? Nous avons besoin de tendre l'oreille et d'écouter attentivement pendant que le jour dure encore. Quel est mon caractère? Quel est le culte que je rends à Dieu? Donc je continue, il a offri donc les produits de son verger. Aucun signe du ciel ne vint témoigner que son offrande était agréée. Donc, que se passe-t-il lorsque nous venons devant Dieu, que nous exprimons notre adoration de Dieu uniquement par des actions de grâce, par des louanges à Dieu, sans aucun autre élément de notre vie religieuse? Qu'est-ce qui se passe dans cette illustration que nous voyons dans la réaction de Dieu vis-à-vis de l'offrande de Caïn? Aucun signe du ciel ne vient témoigner que l'offrande est agréée. Je continue. Abel le supplia de s'approcher de Dieu de la façon divinement requise. Abel, il est venu comme un fidèle rémonstrateur, comme un messager, un prophète, et a essayé tendrement, et tout en exprimant sa fidélité, sa loyauté envers Dieu, a essayé de faire comprendre à Caïn que son culte n'était pas acceptable, que le caractère de son adoration religieuse n'était pas en harmonie avec le plan divinement requis, avec la façon divinement requise par Dieu de venir se présenter devant Dieu. Abel, il l'a supplié comme ça, mais Caïn ne se montra que plus obstiné à en faire à sa guise. Étant l'aîné, il jugeait qu'il n'avait pas de leçon à recevoir de son frère et méprisa ses conseils. Caïn s'était approché de Dieu avec le murmure et l'incrédulité au cœur à l'égard de l'expiation promise et de la nécessité des sacrifices. Son offrande n'exprimait aucun aveu de ses fautes. C'est ça le problème. C'est que oui, l'offrande d'action de grâce par les fruits de la terre, ça faisait partie du culte, du plan divinement établi par Dieu pour notre salut, mais ce n'était pas complet. Ce n'était pas vraiment... Il manquait l'aspect essentiel, comme nous allons le voir. Qu'est-ce que ça voulait dire qu'il venait simplement avec les fruits de la terre? C'est que son offrande n'exprimait aucun aveu de ses fautes. Donc une religion qui ne ressent pas une contrition, qui n'est pas un cœur brisé pour nos péchés, pour mes fautes envers Dieu, qui ne vient pas exprimer un aveu de mes fautes, qui ne manifeste pas une repentance pour mes péchés, c'est une religion qui n'est pas en harmonie avec le plan du salut. Comme beaucoup de nos contemporains, Caïn trouvait que ce serait pour lui un acte de faiblesse que de suivre scrupuleusement les directions divines et d'attendre son salut uniquement de l'expiation du Sauveur promis. Il détermina de conserver son indépendance. Il viendrait par ses propres mérites. Il ne s'approcherait pas de Dieu avec un agneau dont le sang se fût mêlé à son offrande. Il apporterait du fruit de son travail. Il présenta son offrande comme une faveur faite à Dieu par laquelle il espérait obtenir l'approbation divine. Caïn avait obéi, il est vrai, en érigeant son autel. Il avait obéi en apportant une offrande, mais son obéissance était incomplète. Il y manquait l'élément essentiel, l'aveu du besoin d'un rédempteur. Donc c'était bel et bien deux frères très différents. Le sacrifice de Caïn, il était fait avec des murmures, le murmure et l'infidélité dans son cœur. Il est venu avec sa propre suffisance, ses propres mérites, et il n'admettait pas son besoin d'un rédempteur. Nous étudions ici les deux catégories différentes. Et d'ailleurs, c'est très bien exprimé dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, verset 32. Car celui qui va de travers est en abomination à l'Éternel. Mais il est l'ami de ceux qui sont droits. Celui qui va de travers, comme Caïn, est en abomination à l'Éternel. Mais l'Éternel est l'ami de ceux qui sont droits, ceux qui sont justes, ceux qui sont justifiés par les mérites et le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est juste un passage pour élargir par la parole de Dieu cette citation que nous avons lue dans l'Esprit de prophétie. Et maintenant, j'aimerais continuer dans Patriarches et Prophètes, page 51, paragraphe 1. Caïn et Abel représentent deux catégories d'individus qui existeront sur la terre jusqu'à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour le péché. Les autres courent le risque de se confier en leur propre mérite. C'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire. Et partant incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. Ce n'est que par les mérites de Jésus que nos transgressions peuvent être pardonnées. Ceux qui ne sentent aucun besoin du sang de Christ et qui pensent s'assurer l'approbation divine par leurs bonnes œuvres commettent la même erreur que Caïn. Aussi longtemps qu'ils n'acceptent pas le sang purificateur, ils restent sous la condamnation. Il n'existe aucun autre moyen pour eux d'être délivrés de l'esclavage du péché. Donc, qu'est-ce que c'est? La première catégorie, ce sont ceux qui acceptent le sacrifice pour les péchés. Ce sont ceux qui acceptent qu'un sacrifice est requis pour expier leurs péchés et qu'ils ne peuvent pas expier par leurs propres bonnes œuvres les fautes qu'ils ont commises contre Dieu. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui se fient à leurs propres mérites, qui offre un sacrifice sans vertu expiatoire, sans la médiation divine. Ils commettent la même erreur que Caïn. Et maintenant, nous nous posons la question, quelle est, à quel point ces deux catégories d'individus, nous avons lu que ce serait les deux catégories d'individus qui existeront sur la terre jusqu'à la fin. Ça veut dire que il n'y en a que deux. Le témoignage de Jésus nous dit qu'il n'existera que deux catégories d'individus sur la terre. Ceux qui acceptent le sacrifice que Dieu a offert pour nos péchés et ceux qui courent le risque de se confier en leur propre mérite. C'est un risque. C'est un risque, c'est un danger. Et ceux qui courent ce risque, qui se mettent et se plongent dans ce danger-là, qu'est-ce qui est écrit ? Commettent la même erreur que Caïn, et tant qu'ils n'acceptent pas le sang purificateur, ils resteront sous la condamnation. Il ne s'agit pas ici de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Dans le monde tout entier, ces deux catégories existent. Et le Caïn peut être une personne qui croit en Dieu ou qui ne croit pas en Dieu. Mais celui qui est le Abel sera quelqu'un qui croit et qui obéit à la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez la distinction ? Le Caïn peut être une personne qui essaie de se sauver en vertu de ses propres mérites. Cela peut être une personne qui essaie de faire le bien et qui se considère comme une personne bien, une bonne personne. Mais existe-t-il une bonne personne sur la terre ? Nous lisons qu'il n'y a aucune chose pareille. Dans Romains chapitre 3, nous lisons que nul homme n'est juste. Il n'y a point de juste. Et maintenant, ce que nous voulons voir, c'est quelle est la proportion des Caïn et des Abel sur la terre. Est-ce que la parole nous donne une indication de la proportion de ces deux catégories d'individus sur la terre? Je le lis ici, à la page 51, au paragraphe 2. Les adorateurs qui suivent l'exemple de Caïn constituent la majorité des hommes. Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel l'homme peut accomplir son salut par ses propres efforts. Quelques-uns, et vous allez voir que, parce que ici, il s'agit ici des adorateurs qui suivent l'exemple de Caïn, et après, il s'agit même de ceux qui n'adorent pas et qui souhaitent élever l'humanité par leurs propres efforts, leurs propres mérites. Je le lis ici. Quelques-uns aujourd'hui prétendent que l'humanité n'a nul besoin de rédemption, mais seulement d'une amélioration, qu'elle est susceptible de s'épurer, de s'élever, de se régénérer elle-même. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? N'est-ce pas même la théorie de l'évolution de Darwin? C'est cela dont l'esprit de prophétie nous parle ici. Cette idée que l'humanité n'a nul besoin de rédemption. De la même manière que Caïn pensait s'assurer la faveur de Dieu par une offrande dénuée du sang expiatoire, ces hommes espèrent élever l'humanité à la hauteur divine sans dépendre de l'expiation. Voyez le piège, l'erreur de Caïn. On en voit le résultat de cette mentalité dans l'histoire de Caïn. Elle nous montre, l'histoire de Caïn nous montre ce que l'homme deviendra en dehors de Christ. Donc l'aspiration nous dit ici que Caïn est l'exemple, nous montre ce qui adviendra de l'homme qui s'aventure à vivre en dehors de Christ. Il est devenu le premier meurtrier. Non, l'humanité n'est pas capable de se régénérer elle-même. Sa tendance naturelle n'est pas de monter vers le divin, mais de descendre vers le satanique. Christ est notre unique espérance. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, car il n'y a de salut en aucun autre. Donc nous avons lu, qu'est-ce que c'était ? Les adorateurs qui suivent l'exemple de Caïn constituent la majorité des hommes. C'est cela la proportion. Ceux qui suivent l'exemple de Caïn constituent la majorité des habitants de la terre. Et d'ailleurs, il est écrit « Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel l'homme peut accomplir son salut par ses propres efforts. » Et maintenant, j'aimerais lire encore une fois pour voir ce qu'il est advenu de Caïn après qu'il ait tué son frère et qu'il ait été maudit. Vous vous souviendrez, tel que c'est écrit dans Genèse chapitre 4. Qu'est-ce que Caïn a fait ? Parce que nous lisons que ceux qui suivent l'exemple de Caïn représentent la majorité des habitants de la terre, la majorité des hommes et femmes sur cette terre sont ceux qui suivent l'exemple de Caïn. Et qu'a fait Caïn après avoir tué son frère ? Je lis ici à la page 58, au paragraphe 2. Après sa malédiction, Caïn s'éloigna du voisinage de son père et se voua d'abord à la culture du sol. Plus tard, il fonda une ville à laquelle il donna le nom de son fils aîné. Il s'éloigna de la face de l'Éternel, tournant le dos à la promesse de l'Éden restauré pour rechercher les biens et les plaisirs d'une terre sous la malédiction du péché. Vous voyez, qu'a fait Caïn ? Il s'est éloigné du voisinage de son père, Adam. Au début, il s'est voué, il a choisi pour son métier la culture du sol. Nous lisons qu'il était laboureur. Mais plus tard, il a fondé une ville. Caïn, celui qui n'a pas offert l'offrande acceptable à Dieu, est le premier à avoir fondé une ville. Parce que la personne qui n'a pas le sens de l'approbation de Dieu à travers le sacrifice et le sang versé de Jésus-Christ le seul médiateur entre l'homme et Dieu, cette personne-là qui n'a pas ce sens, cette satisfaction, cette consolation de la rédemption que l'on trouve, qui peut être seulement trouvée en Jésus-Christ, cette personne-là va rechercher la consolation dans d'autres êtres humains. Et donc, Caïn a posé les fondements d'une existence dans la ville. L'existence dans les cités. Une existence qui place Dieu hors du champ de vue, hors de la vision, une existence qui n'a pas à dépendre du sacrifice pour le péché. Et qu'est-ce qui est écrit d'autre ? Il s'éloigna de la face de l'Éternel, tournant le dos à la promesse de l'Éden restauré pour rechercher les biens et les plaisirs d'une terre sous la malédiction du péché. Il avait l'Éternel en face de lui. Il avait devant lui par la foi la promesse de l'Éden restauré. Mais il s'est détourné de tout cela parce qu'il était suffisant et qu'il ne souhaitait pas faire l'aveu de ses fautes et de ses péchés. Et il s'est mis à rechercher les biens et les plaisirs sur une terre maudite sous la malédiction du péché. Voilà la ligne de conduite, l'exemple de Caïn, que la majorité des hommes sur la terre suivent. Je continue. Il devint ainsi le chef de file de la très nombreuse classe de ceux qui adorent le Dieu de ce monde. Ses descendants célèbrent par leur contribution au progrès des arts et des métiers, étaient dénués de piété et opposés au plan de Dieu pour l'humanité. Au crime d'homicide dont Caïn avait donné l'exemple, Lémec, son cinquième descendant, ajouta la polygamie. Et honté dans son impiété, il ne prononça le nom de Dieu que pour tirer de l'impunité de Caïn l'assurance de sa propre sécurité. Et maintenant, il y a aussi écrit le style de, le mode de vie qu'a choisi Abel et ceux qui ont suivi son exemple. Abel s'était consacré à la vie pastorale, vivant sous des tentes ou sous des abris de feuillage. Les descendants de Seth suivirent la même vocation, faisant profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre, attendant une patrie meilleure, la patrie céleste. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention vers un des aspects qui caractérise maintenant ceux qui, les hommes qui suivent l'exemple de Caïn. Et c'est introduit à notre intelligence, notre compréhension ici, à la page 61, au paragraphe 1 et 2. En parlant du jardin d'Éden, voilà ce que l'esprit de prophétie nous dit. Tant que ce jardin était là, sous leurs yeux, gardé par les anges gardiens, il n'était pas possible au scepticisme de nier l'existence de l'Éden. L'ordre de la création le but du jardin, l'histoire des deux arbres si profondément reliés au sort de l'humanité, tous ces faits étaient incontestés. Aussi longtemps qu'Adam vécut, l'existence et la souveraineté de Dieu, comme aussi le caractère obligatoire de sa loi, ne furent guère mises en doute. Donc, tant que le jardin d'Éden était sous leurs yeux, il n'était pas possible au scepticisme de nier son existence. Parce que le jardin d'Éden est resté en la présence des enfants de la race déchue d'Adam. Et donc, l'ordre de la création, le but du jardin, l'histoire des deux arbres, tout cela, c'était des faits qui étaient incontestés. Et aussi longtemps que Adam, il était là, aussi longtemps que Adam, il était vivant, l'existence et la souveraineté de Dieu ne furent guère mises en doute. Donc le scepticisme ne put jamais gagner du terrain tant que Adam vivait et que les hommes pouvaient voir Éden de leurs propres yeux. Mais Adam, il finit par mourir et le jardin d'Éden fut finalement ôté aux yeux des hommes mortels et pécheurs. Et donc aujourd'hui, après une accumulation de plusieurs milliers d'années de rébellion et d'incrédulité, la réalité de 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4 est celle à laquelle nous sommes confrontés. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leurs convoitises et qui diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Donc, tant que l'Éden, tant que le jardin d'Éden était sur la terre, le scepticisme ne pouvait pas gagner de terrain, mais après que Adam soit mort, après que le jardin d'Éden soit ôté de devant les yeux des hommes mortels, l'esprit de moquerie et d'incrédulité a commencé à gagner du terrain. Et nous lisons tout particulièrement ici que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs qui diraient où est la promesse de son avènement, du retour de Jésus-Christ. C'est un des signes des derniers temps. Et dans Patriarches et Prophètes, à la page 62, au paragraphe 2 et 3, je lis ce qui suit. La puissance de Dieu qui agissait par le moyen de son serviteur, Enoch, produisait une profonde impression sur ceux qui l'entendaient. Un certain nombre d'entre eux prenaient garde à ces avertissements et renonçaient à leurs péchés, mais la multitude, tournant en dérision son message solennel, ne se plongeait que plus aveuglément dans le mal. Dans les derniers jours, les serviteurs de Dieu devront faire entendre au monde un message semblable, message qui sera également accueilli par l'incrédulité et le sarcasme. Tout comme les antédiluviens repoussèrent les représentations de l'homme qui marchait avec Dieu, la dernière génération rejettera les avertissements des messagers du ciel. Donc Enoch, qui faisait partie de cette lignée d'hommes saints, qui, en dépit de la corruption générale, étaient transformés et ennoblis par leur communion avec Dieu à cette époque-là, Enoch, avec ses avertissements, certains renonçaient à leur péché parce qu'ils étaient touchés par son message solennel, mais la multitude, la majeure partie de ceux qui l'écoutaient, tournaient en dérision son message et ne se plongeaient que plus aveuglément dans le mal. Et nous lisons que dans les derniers jours, les serviteurs de Dieu devront faire entendre au monde un message semblable que celui d'Enoch. Et ce message sera également accueilli par l'incrédulité et le sarcasme, sachant qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. Et les antédiluviens, ils ont repoussé les représentations d'Enoch, de cet homme qui marchait avec Dieu, cet homme qui communiait avec Dieu. Les antédiluviens ont repoussé, ont tenu en dérision ses propos et son message. Et les hommes vivant au tout dernier jour feront de même. La multitude tournera en dérision le message solennel des serviteurs de Dieu, des messagers du ciel. Ils rejetteront les avertissements des messagers du ciel. Et donc c'est ça le caractère de la lignée de Caïn. Dans Romains chapitre 1, verset 18, nous lisons comment ces hommes qui suivent l'exemple de Caïn au dernier jour sont en réalité sans excuse. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de personnes qui renient l'existence de Dieu, il s'agit également, comme nous l'avons lu, d'adorateurs. Romains chapitre 1, verset 18. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. C'est-à-dire que quand la vérité leur est présentée, au lieu de la recevoir comme la vérité qu'elle est, ils la retiennent dans l'injustice et la transforment en mensonge. Et le mensonge, ils le considèrent comme la vérité. Et la vérité, ils la retiennent par leur conscience comme une erreur, comme du fanatisme, comme de l'extrémisme. Et ainsi, ils se placent du côté de ceux qui suivent l'exemple de Caïn. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez, Caïn s'est vanté d'être sage. Il s'est vanté que par les produits, le fruit de son labeur, il pouvait recevoir l'approbation, mériter l'approbation divine. Il s'est vanté d'être sage, mais par sa prétendue sagesse, il est devenu fou, il est devenu irrité, fort irrité contre l'Éternel et fort irrité contre Abel qui tenait contre lui les remonstrances, les corrections, les avertissements de la part de Dieu, lui disant et l'exhortant à venir offrir le sacrifice que Dieu avait exigé. Mais ceux qui suivent l'exemple de Caïn, ayant connu Dieu, ils ne le glorifient point comme Dieu, et ils ne lui rendent point grâce. Ça veut dire que si, en réalité, si je viens à Dieu en lui offrant l'action de grâce comme Caïn l'a fait, en offrant le produit, le fruit de la terre, en réalité, si je ne fais que cela, ce que je fais, c'est que je ne le glorifie pas comme Dieu et je ne lui rends pas grâce. Alors que en offrant même cette offrande d'action de grâce, je suis en train de manifester que je ne lui rends pas grâce, mais que j'estime que mes propres mérites suffiront à m'attirer sa faveur divine. Et donc, dans son amour, parce que c'est ça que l'on veut voir, comment est-ce que l'amour de Dieu est manifesté dans cette terrible réalité de personnes qui, se vantant d'être sages, deviennent fous et qui ne glorifient pas Dieu comme Dieu alors qu'il s'est manifesté à eux, qu'il s'est fait connaître à eux. Eh bien, c'est que dans son amour, Dieu n'a pas empêché Caïn de fonder sa propre culture, de fonder sa propre civilisation et de contaminer ainsi le monde par son exemple. Vous voyez ce que Dieu a fait? Vous vous souvenez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 4? Retournons-y, c'est très intéressant. On veut voir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu face à un tel homme fou, un homme si rebelle, un homme si apostat. Qu'est-ce qu'il a fait? Après que Dieu n'ait pas manifesté d'égard à l'oblation de Caïn, Caïn fut fort irrité, verset 5 de Genèse chapitre 4, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Vous voyez comment Dieu essayait de regagner Caïn à lui-même? Il voulait lui montrer qu'il l'aimait encore. Il lui a dit, si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Si tu fais ce que je te demande, est-ce que tu n'y trouveras pas le bonheur? Est-ce que la joie ne te reviendra pas, celle que tu as perdue maintenant, parce que tu t'es révolté, que je n'ai pas eu égard à ton sacrifice qui n'est pas acceptable? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Ouh. Est-ce que vous voyez le langage de Dieu envers le Caïn, l'homme qui a suivi l'exemple de Caïn? Il se peut que nous nous soyons comportés comme des Abel, mais qu'après nous nous soyons lassés et que nous ayons suivi l'exemple de Caïn. Et donc il nous tient ce langage. Il nous dit, si tu fais bien, tu retrouveras la joie du salut en Christ. Parce que tu feras le bien qui a été ordonné comme l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. et tu trouveras la paix et la joie et tu te saisiras de ma force. Mais si tu ne fais pas bien, lui a-t-il dit, le péché est couché à la porte. C'est-à-dire que à chaque fois que nous faisons le mal, le péché prend plus en plus d'ampleur dans notre propre existence et nous serons de plus en plus susceptibles à lui ouvrir la porte. Il est couché à la porte, juste là, au palier. De sorte que dès que nous voulons parler, boum, il rentre. Dès que nous voulons ouvrir nos yeux, dim, il rentre. Dès que nous ouvrons nos oreilles à un son, ouh, il rentre. Il est couché à la porte. Et donc, il dit, et son désir est tourné vers toi. La chair de péché se fortifie à chaque fois que tu te rebelles davantage. C'était le langage que Dieu tenait à Caïn. Mais il lui disait, mais même si tu as fait cela, même si tu as fortifié ta chair de péché en ne te soumettant pas à moi, en n'acceptant pas que tu as besoin de Jésus, si tu as fait cela et que le péché a une telle emprise sur toi, maintenant tu dois dominer sur lui. Si tu te repens, si tu te saisis maintenant du sacrifice de Jésus, je te donnerai la force de résister à la tentation. Tu dois dominer sur ce péché que tu as nourri. Et qu'est-ce que Caïn a fait après? Après que Dieu ait tenu ses propos si attendrissants envers Caïn, ses propos si miséricordieux, qu'a fait Caïn? Quelle voie Caïn a-t-il suivi? Et Caïn parla à Abel, son frère, et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Parce que nous lisons que, autre part, dans Patriarches et Prophètes, le même chapitre sur Caïn et Abel, que Abel a cherché à corriger son frère, à le ramener dans le droit chemin. Comme nous l'avons vu, Caïn ne se sentait au-dessus de recevoir des leçons de son petit frère. Il a été fort irrité aussi contre son frère et son courroux l'a porté à tuer son frère. Caïn a manifesté l'esprit intolérant et persécuteur de ceux qui suivent l'exemple de Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Donc là, Caïn manifestait l'esprit qui gagnait de l'élan en son âme. Il manifestait l'esprit de Satan. Et l'Éternel dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus son fruit. Tu seras vagabond et fugitif sur la terre. » Et Dieu, après, dans sa miséricorde, a encore continué à promettre sa protection à celui qui s'était tourné de devant la face de l'Éternel. Et donc, malgré toute cette manifestation de l'amour de Dieu, ceux qui ont changé la vérité en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé en sorte qu'ils commettent des choses indigne. parce qu'ils suivent la voie de Caïn et Dieu les abandonne à leur propre choix, à un esprit dépravé. Et maintenant, pour conclure, j'aimerais lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 21. Et ce passage, ça exprime pourquoi Caïn ne désirait pas offrir le sacrifice que Dieu exigeait de lui. Vous allez tout de suite le voir. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Est-ce que vous voyez la raison pour laquelle il existe une telle ligne de démarcation entre ces deux catégories d'individus? C'est parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que la croix si ce n'est le sacrifice de l'agneau de Dieu en expiation pour nos péchés et qui représente nos seuls mérites pour être acceptés auprès de Dieu. Mais cette prédication de la croix, cette prédication de Jésus qui vient se donner pour le pécheur perdu, qui vient s'offrir pour un ennemi, et cette prédication qui met en lumière la folie de l'homme qui se prétend sage, cette sagesse de Dieu-là est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui nourrissent l'esprit de Caïn. Verset 19, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Parce que Dieu, qui est le très haut, qui est la sagesse même, comme nous pouvons le lire dans Proverbes, chapitre 8, je crois, Dieu qui est la sagesse même, s'est dépouillé de sa position sur le trône et a pris la forme d'un serviteur et a pris sur lui à assumer l'humanité de la race humaine déchue et pécheresse. Et ce message-là, cette prédication d'une telle abnégation, d'un tel renoncement à soi pour des pécheurs qui sont rebelles, impies et ennemis, ce message-là, cela met à bas la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Et donc Dieu, l'apôtre, il demande sous l'inspiration, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu montre que sa sagesse dépasse cela et bien au-delà de cela. Non pas seulement cela, mais que sa sagesse rend la sagesse de l'homme folle. Et il est écrit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc Dieu nous sauve par la folie de la prédication et la croix est une folie pour l'homme charnel. La croix est une folie pour la chair de péché. Et dans, je vais pas y aller, mais dans Message choisi, volume 1, page 271, paragraphe 1, nous lisons que l'évangile avait aussi été prêché à Caïn, mais que cet évangile, cette prédication de la croix, elle fut pour lui une odeur de mort à la mort, une odeur mortelle. Pourquoi? Est-ce qu'il y a du mal dans cela? Est-ce qu'il y a le mal dans ce message? Non, c'est parce que Caïn n'a pas reçu l'évangile avec un cœur contrit. Et donc l'évangile fut pour lui une odeur mortelle parce que sa propre réaction négative aux exigences de Dieu à travers ce sacrifice de Jésus-Christ dans l'évangile, sa propre réaction négative et rebelle à cela provoqua sa mort spirituelle. Et il y a une déclaration dans l'événement des derniers jours où nous voyons que ces deux classes existeront jusqu'à la fin, à la toute fin comme nous l'avions lu, mais que ces deux classes continueront de se manifester dans la grande épreuve, la grande crise qui séparera de manière définitive les deux classes. Cette crise de la question du sabbat. Et il ne s'agit pas simplement de adorer un jour ou un autre, quoique seul le septième jour soit le jour de l'Éternel, mais il s'agit que bel et bien, lorsque nous faisons cela, nous n'offrions pas une obéissance incomplète comme Caïn l'a fait. Parce que simplement agréer à une exigence de Dieu tout en refusant une autre exigence de Dieu, ce n'est pas se conformer au plan divin. Et ici je lis dans Événements des derniers jours, page 163, paragraphe 1 à 3. Il ne peut exister que deux classes seulement. Chaque partie est marquée de façon distincte, soit du sceau du Dieu vivant, soit de la marque de la bête ou de son image. Le monde chrétien tout entier sera concerné par le grand conflit entre la foi et l'incroyance. Tous devront prendre position. Certains ne semblent peut-être pas s'engager d'aucun côté dans ce conflit. Ils ne semblent peut-être pas prendre parti contre la vérité, mais ils ne se manifestent pas hardiment en faveur de Christ par crainte de perdre des biens ou d'endurer des critiques. Tous ceux-là sont comptés parmi les ennemis de Christ. À mesure que nous approchons de la fin des temps, la ligne de séparation entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres se fera de plus en plus nette. Ils seront de plus en plus en désaccord. cette différence est exprimée par l'expression de Christ né de nouveau. C'est-à-dire créé à nouveau en Christ, mort au monde et vivant pour Dieu. Tels sont les murs de séparation qui distinguent le céleste du terrestre et établissent la différence entre ceux qui appartiennent au monde et ceux qui sont choisis du milieu du monde, élus et précieux aux yeux de Dieu. Vous voyez cette distinction entre Caïn et Abel ici, entre les deux classes, les deux catégories d'individus que ces deux hommes représentaient? Et donc voilà, c'est notre appel. Et quand bien même certains ne semblent peut-être pas s'engager d'aucun côté dans ce conflit et ne semblent peut-être pas prendre parti contre la vérité, s'ils ne se manifestent pas hardiment en faveur de Christ, par crainte de perdre des biens ou d'endurer des critiques, ils sont comptés parmi les ennemis de Christ. Dieu, il cherche à recevoir l'oblation d'Abel. Et voilà, comme nous l'avons lu, à mesure que nous nous approchons de la fin des temps, la ligne de séparation entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres se fera de plus en plus nette. Elle sera de plus en plus marquée. Donc à mesure qu'on s'approche de la toute fin, cette distinction, cette séparation, cette ligne de séparation entre ces deux catégories d'individus, les enfants de lumière et les enfants des ténèbres, cette distinction se fait de plus en plus claire et nette, et ces deux catégories, ces deux classes deviennent de plus en plus en désaccord par le culte qu'ils rendent à Dieu et la religion qu'ils manifestent envers Dieu, en ce que certains offrent une religion qui est divinement ordonnée et prescrite, et d'autres se présentent à Dieu avec simplement leur propre mérite et viennent peut-être présenter des actions de grâce à Dieu, mais sans poser le fondement de ce qui leur attirera l'approbation de Dieu. Et ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 6, nous allons conclure par ces paroles. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous, et réfléchissons-y très attentivement, parce que ici il parle à des personnes dont il connaît le caractère, des personnes qui professent le nom de Jésus. Et donc lorsque nous lisons cela, il nous faut mettre toutes ces choses, considérer toutes ces choses très attentivement pour estimer et déterminer si nous pouvons, s'il peut vraiment, si Dieu peut s'adresser à nous par ses paroles. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse, de la foi et de l'amour et du casque de l'espérance du salut. Donc c'est ça l'exhortation. C'est ne soyons pas comme ceux qui suivent l'exemple de Caïn, offrons à Dieu une oblation acceptable. Offrons à Dieu le sacrifice de Jésus-Christ sur qui nous confessons tous nos péchés et que nous acceptons comme notre victime expiatoire. Pour que nous communions avec Dieu comme Enoch communiait et que nous tenions au monde un message solennel qui, bien qu'il soit tenu en dérision, sera le message par lequel nous sommes sauvés. Et donc il nous exhorte, Dieu nous exhorte à ne pas dormir, à ne pas être tiède, à ne pas considérer nos mérites comme suffisants, à ne pas venir à Dieu sans un agneau de notre troupeau, sans reconnaître mon besoin du Rédempteur. Et donc il nous incombe de déterminer si nous sommes bien des enfants de lumière, comme l'était Abel, prêt et désireux de nous présenter à Dieu avec l'offrande qu'il a lui-même désignée, celle de Christ, l'agneau de Dieu qui a été, comme c'est écrit, immolé dès la fondation du monde. Puissions-nous ne pas marcher dans les ténèbres d'un esprit rebelle, dépravé, rendu fou par sa sagesse charnelle, mais puissions-nous porter l'armure de la foi et de l'amour, le casque de l'espérance d'un salut complet et parfait en Jésus-Christ. C'est ma prière. On puisse garder ces choses à cœur et être véritablement des enfants de lumière. Amen.